Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'info à 7h, c'est Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Comment éviter les contaminations Covid dans les écoles? Reportage en Alsace où les détecteurs de CO2 entrent dans les classes.
La France insoumise à la pointe de l'innovation, meeting en odorama aujourd'hui à Nantes.
Et puis les sports, l'OM en danger face à Lille ce soir pour rester sur le podium, victoire obligatoire.
Dans la prochaine demi-heure, on parlera de l'embouteillage de candidature à gauche avec le député insoumis Adrien Quatennens à 7h12. Et puis avec Mathieu Alterman, on évoquera ces chanteurs qui ont disparu des radars mais qui pourtant sont toujours bien vivants. Rendez-vous à 7h23. D'abord, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Les deux tiers nord dans les nuages avec de l'humidité sur le nord sous forme de pluie faible dès la mi-journée, mais des nuages qui s'étendent à toute la moitié nord toute la journée. Au sud, c'est plein soleil et en montagne, un régal.
Et bien sûr, météo complète dans 7 minutes.
Europe 1.
FFP2 capteurs de CO2, où en est-on pour éviter la contamination dans les écoles?
On évoquait ce record hier. La semaine dernière, il y avait 14 500 classes de fermées en France, ce qui a poussé les enseignants à descendre dans la rue jeudi aux côtés bien souvent de parents pour réclamer justement plus de moyens. La livraison des masques et l'embauche de contractuels promis par Jean Castex pour l'instant ne semblent pas convaincre. Écoutez Rodrigo Arenas, il est président de la FCPE.
Aujourd'hui, ce qui est mis sur la table, ce sont des promesses, comme d'ailleurs comme les tests, comme les masques, qui sont régulièrement mis sur le tapis en disant « mais on a fait, mais en réalité, on ne voit rien venir sur le terrain ». Ce sont les classes qui ne sont toujours pas équipées de capteurs de CO2, de purificateurs d'air quand c'est nécessaire, et surtout, il n'y a pas aujourd'hui sur la table les enseignants nécessaires pour remplacer ceux qui sont absents. Quand on met en place des créations de postes, mais quand personne ne répond à l'appel parce que les salaires sont trop bas, eh ben, écoutez, ce sont que des effets d'annonce. Nous voulons des enseignants dans la classe et pas seulement sur le papier. C'est bien pour ça aujourd'hui qu'on est extrêmement attentif dans le cadre des relations que nous entretenons avec les enseignants, des suites à donner à un éventuel mouvement.
Rodrigo Arenas, président de la FCPE avec Nina Droff pour Europe 1.
Alors arrêtons-nous sur ces fameux capteurs de CO2. Est-ce que c'est la panacée?
Alors d'abord, il y a peu d'écoles qui en sont équipées, mais tous les spécialistes le disent. C'est un instrument utile pour éviter la propagation du virus. Mélina Fachin nous emmène dans une classe dans le sud de l'Alsace ce matin.
On entoure ici le petit monde.
Dans cette classe de CE1, les 20 élèves ont bien compris l'intérêt du capteur de CO2, le petit boîtier installé à côté du tableau.
Pour pas attraper le Covid et s'échanger les microbes.
Ça sonne, ça veut dire qu'il faut aérer les fenêtres.
Et justement, au bout de 3 quarts d'heure de cours, le capteur dépasse les 1500 ppm partis par million, le seuil d'alerte. Pour Isabelle Lugat, la maîtresse, garder un œil sur le boîtier est devenu une habitude.
C'est en même temps rassurant, en même temps un petit peu angoissant effectivement de voir monter le taux de CO2. C'est vrai qu'ils sont habitués, ils savent que je le mets en route le matin et qu'il va être en route toute la journée.
La commune d'Ilfurt a été l'une des premières en France à se doter d'un capteur CO2 il y a presque un an, le maire Christian Sutter.
Les enfants sont quand même plus en sécurité dans les locaux. Ça peut leur donner de bonnes habitudes à la maison bien entendu aussi. Et aérer toutes les heures pendant au moins 5 à 10 minutes, donc je crois que c'est très positif quand même.
En tout, 64 communes et 150 salles de classe dans le sud de l'Alsace sont déjà équipées en capteurs CO2 pour un budget total de 15 000 euros. Ilfurt, Mélina Fachin, Europe 1.
La lueur d'optimisme dans cette période, la fin du tunnel est en approche.
Oui, c'est ce que nous disent plusieurs infectiologues comme le professeur Alain Fischer. Ils évoquent une potentielle accalmie dans la pandémie en France, mais vers le mois de mars. En attendant, les contaminations se poursuivent, 325 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de personnes à l'hôpital en soins critiques continue de baisser. C'est le troisième jour d'affilée.
La politique à présent, et Jean-Luc Mélenchon tient meeting à Nantes en début d'après-midi. Le leader de la France insoumise innove.
Oui, après les hologrammes en 2017, voici le meeting immersif. Imaginez le décor, 3000 spectateurs attendus dans un grand cube. Autour d'eux, des images, des sons et surtout des odeurs. Reportage signé Charles Guyard.
Nous avons toujours voulu utiliser les nouvelles technologies pour mieux diffuser nos idées.
Et la diffusion, pour le coup, sera totale auditive, forcément, mais avec un son, attention, spatialisé, visuel aussi, avec des images projetées sur les 4 grands murs entourant le public et surtout olfactive avec des odeurs. Une innovation qui fait la fierté de Bastien Lachaud. Il est député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis et responsable des événements de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai que le parfum en politique, c'est inhabituel.
Et tout dépend de quelles odeurs on parle. Hein, dans un milieu où les boules puantes sont légion. Ici, pas question de se boucher le nez. Au contraire, même malgré le masque, les 3000 spectateurs pourront humer deux essences pour voyager dans les thématiques de l'espace et de la mer abordées dans les discours. Une vraie prouesse.
C'est assez compliqué de diffuser le parfum. Et ensuite, il faut attendre que le parfum s'évacue pour pouvoir en injecter un nouveau. C'est aussi une performance technologique de gérer une diffusion de parfum sur une telle superficie.
Et d'ailleurs, ça sent quoi une campagne de Mélenchon ? Pour Paul, jeune militant, c'est une évidence.
Ça sent bon, on va gagner.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et Jean-Luc Mélenchon, qui à l'instar de Yannick Jadot et Anne Hidalgo ne veut pas se soumettre à la primaire populaire. À l'inverse, Christiane Taubira confirme que oui, elle l'a dit hier soir en lançant officiellement sa candidature à la présidentielle.
Alors est-ce que ça ne se bouscule pas un peu trop au portillon de la gauche ? Adrien Quatennens est mon invité juste après le journal.
D'importants dégâts mais pas de victimes après un tsunami dans le Pacifique cette nuit. Tsunami dû à l'éruption d'un volcan sous-marin dans le secteur des îles Tonga, le risque de raz-de-marée a priori est passé.
L'espoir à présent n'est pas de raz-de-marée, là, de but hier au Parc des Princes.
2-0 hein, face à Brest pour ce match, comptant pour la 21e journée de Ligue 1, mission accomplie pour les leaders du championnat. Ce soir sur Europe 1, on suit Marseille-Lille. Jean-François Pérez, le club marseillais n'aborde pas ce match dans de très très bonnes conditions.
En effet, il y a d'abord cette décision de la FIFA qui assombrit potentiellement l'avenir du club. Suite à un conflit entre l'OM et Watford autour du transfert du milieu de terrain Pape Gueye en 2020, l'instance a décidé non seulement de suspendre le joueur pour 4 mois, mais d'interdire l'OM de recrutement pendant 1 an. Le club va faire appel, un appel suspensif. N'empêche, cet héritage empoisonné de l'ancienne direction pourrait causer au club un tort considérable. Entre-temps, et sans polémique possible puisque le joueur était libre, l'OM a officialisé l'arrivée du Congolais Cédric Bakambu, un attaquant expérimenté et hermétique au doute.
Vous savez comment on m'appelle à Kinshasa ? On m'appelle Bakagol, c'est le surnom qui m'a suivi tout au long de ma carrière. J'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, j'aime la pression, c'est ça qui nous fait nous surpasser entre guillemets. Et le jour où j'aurai plus la pression, j'arrêterai de jouer au football.
Le contrat de l'ancien Sochalien n'étant pas encore enregistré, il ne sera pas sur la pelouse ce soir, pas de premier rendez-vous donc avec les supporters. De toute façon, il aurait été tronqué. Seuls 5000 spectateurs, jauge sanitaire oblige, seront admis au stade Vélodrome ce soir pour ce match crucial pour les deux équipes.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 et OM Lille, c'est en direct intégral ce soir évidemment à 20h45.
Et avec Lionel Rousseau. Merci beaucoup Lénaïque, à tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon. Tiens, Véronique nous dit qu'il fait 3 degrés à Blois, sans brouillard par rapport à hier. Valérie, c'est une France coupée en deux aujourd'hui. Hein.
Oui, le sud qui est au soleil, des Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée. Il faut juste patienter un petit peu sur la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine où les nuages bas matinaux et les brouillards givrants retardent un tout petit peu l'arrivée du ciel bleu.
Au nord, ça donne quoi ?
Ça donne qu'au nord de la Loire jusqu'au Grand Est, c'est très différent. Là, on passe la journée sous la grisaille, sous de petites pluies fines façon crachin sur l'île et sa région. Un petit peu de bruine en Bretagne, tout cela qui va se transformer en pluie fine sur un bon petit tiers nord au fil de la matinée et d'ailleurs pour toute la journée, y compris sur le bassin parisien. Soyez surtout prudents si vous circulez dans les Ardennes en raison de petits flocons possibles. Des brouillards givrants ici ou là dans le nord. Les chaussées qui peuvent être glissantes parce qu'il fait froid en plus avec des gelées, les thermomètres qui vont afficher jusqu'à moins 10 dans le Jura ce matin et moins 5 dans les Ardennes et cet après-midi entre 2 en pleine d'Alsace et 7 degrés en Bretagne et dans le sud aux alentours de 14 degrés.
Merci beaucoup Valérie Darmon, on se donne bien sûr rendez-vous à